Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 28 février 2023. Avec vous, Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Présidentielle au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir a semblé prendre une légère avance ce lundi soir après un décompte encore partiel. L'opposition crie à la manipulation. Au Mali, le chef de la junte reçoit un projet final de nouvelle constitution. Au Burkina, des habitants évoquent un film d'horreur après une attaque djihadiste dans l'Est. En Libye, l'ONU lance une initiative pour organiser des élections en 2023. La France va diminuer les effectifs militaires en Afrique, annonce du chef de l'État français dans un discours prononcé à la veille d'une tournée africaine. Origine du Covid, la Chine s'estime salie par de nouvelles accusations américaines, privilégiant la piste d'une fuite de laboratoire en Chine. À suivre dans la page économie, l'énergie solaire permettrait à 380 millions de personnes en Afrique subsaharienne d'avoir accès à l'électricité d'ici 2030. Et dans les sports, Lionel Messi, sacré meilleur joueur 2022 par la FIFA. D'abord, le journal. Le décompte des voix après l'élection présidentielle reprend ce mardi au Nigeria où Bola Tinubu, le candidat de la formation pouvoir, semble prendre une légère avance. Mais les partis des deux candidats de l'opposition dénoncent des manipulations des résultats. La commission électorale avait jusqu'ici annoncé les résultats officiels dans 14 États sur les 36 du pays et dans la capitale fédérale Abuja. Pour le moment, Bola Tinubu de l'APC, le parti du président Buhari, mène avec plus de 3,8 millions de voix contre 3 millions de voix pour Atiku Abubakar, le candidat du PDP, le principal parti d'opposition. Les Nigérians élisaient un successeur au président Muhammadu Buhari qui se retire après deux mandats, mais aussi leurs députés et sénateurs. Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier lundi un projet de nouvelle constitution amendant un avant-projet contesté il y a quelques mois, ont rapporté ses services sans s'exprimer sur la date de sa soumission à référendum. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réformes invoqué par les militaires pour justifier leur maintien au pouvoir. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024 et un retour des civils au pouvoir. Le contenu de ce nouveau projet présenté comme final par la présidence malienne n'avait pas été rendu public ce lundi en début de soirée. Des habitants de l'Est du Burkina Faso ont évoqué ce lundi un film d'horreur en décrivant l'attaque au bilan pour l'heure inconnu de leur commune par des djihadistes présumés la veille où ils disent avoir été abandonnés par l'armée. Selon un collectif de cette localité qui a évoqué des morts mais n'était pas en mesure de donner un bilan précis de l'attaque, ce drame est survenu alors que l'armée avait abandonné le village. Selon ces habitants qui relatent des témoignages de leurs proches rescapés, dimanche, des groupes armés ont attaqué Partiaga, détruisant la plupart des bâtiments administratifs et incendiant concessions et greniers à céréales. Les autorités burkinabées ne se sont pas encore exprimées sur cette attaque. Le conflit entre les forces armées et les rebelles dans l'est de la RDC pourrait perturber les préparatifs des élections générales prévues pour le 20 décembre. C'est ce qu'a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi hier lundi au bureau des droits de l'homme de l'ONU. Plus d'informations avec Nanit Talani.
La persistance de la guerre dans l'est de notre pays risque de mettre en péril le processus électoral qui est déjà en cours en raison d'un déplacement massif de personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité de ces zones, a déclaré M. Tshisekedi. Le président congolais a exhorté la communauté internationale à aider la RDC à rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il a de nouveau accusé les autorités rwandaises de soutenir le M23, ce que Kigali a toujours nié. Trois experts électoraux congolais et étrangers ont confié à Reuters que la CENI, la commission électorale pourrait reporter les élections. La CENI a déjà retardé la date limite d'inscription des électeurs à 2 reprises dans plus d'une douzaine de provinces de l'Ouest en raison de problèmes techniques. La CENI a commencé à enregistrer les électeurs le 17 février dans la province du Nord Kivu, dont certaines parties sont occupées par le groupe rebelle du M23. L'enrôlement a jusqu'à présent été impossible dans ces endroits. Les combats ont déplacé des centaines de milliers de personnes, ce qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de l'État à se préparer aux élections parlementaires et présidentielles cette année.
La France va diminuer les effectifs militaires en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a fait l'annonce dans son discours sur les nouvelles orientations de sa politique africaine. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays, a-t-il déclaré. Alexandrine Ollognon.
Emmanuel Macron a plaidé pour un réel partenariat sécuritaire avec les États africains face à la progression des groupes djihadistes lors du discours à l'Élysée. La transformation annoncée débutera dans les prochains mois. L'idée, assure Emmanuel Macron, est que l'armée française agisse désormais en second rideau. Selon le patron de l'Élysée, cette réorganisation n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement, mais elle se traduira, je cite, « par une africanisation, une mutualisation de ces grandes bases ». Fin de citation. Ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales, explique-t-il. Les déclarations du président français interviennent après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso et à la veille d'une visite dans 4 pays d'Afrique centrale.
L'envoyé de l'ONU en Libye, Abdoulaye Batli, va lancer une nouvelle initiative pour permettre l'organisation d'élections pour cette année avec la formation d'un comité directeur de haut niveau. Abdourahmane Dia.
S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU, Abdoulaye Batili a déclaré que le panel réunirait des représentants d'institutions, des leaders politiques et tribaux et des groupes de la société civile. La classe politique libyenne traverse une crise de légitimité majeure. On pourrait dire que la plupart des institutions ont perdu leur légitimité depuis des années, a-t-il déclaré, réitérant la nécessité d'aller vers des élections. Le processus politique pour résoudre le conflit est au point mort depuis le report au dernier moment d'une élection prévue en décembre 2021 en raison de différends concernant les règles, y compris l'éligibilité des principaux candidats. La Libye est plongée dans une crise politique majeure depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Le pays est miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères. 2 gouvernements rivaux se disputent le pouvoir, l'un reconnu par l'ONU et installé à Tripoli et l'autre à Sirte, dans le centre du pays. L'Est et une partie du Sud sont contrôlés par le maréchal Khalifa Haftar.
L'Algérie et la Russie ont discuté hier lundi d'un renforcement de leur coopération militaire lors d'une visite à Alger. Du secrétaire du Conseil de sécurité russe a indiqué le ministère de la Défense algérien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pékin a vigoureusement contesté hier l'hypothèse désormais privilégiée par le ministère américain de l'énergie selon laquelle le Covid-19 proviendrait d'un accident de laboratoire en Chine, s'estimant sali par ces nouvelles accusations. Jacques Aristide.
Il convient de cesser d'agiter cette théorie d'une fuite de laboratoire, d'arrêter de salir la Chine et d'arrêter de politiser la recherche des origines du virus, a déclaré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin réagissait au récent changement d'analyse au sein du ministère américain de l'énergie, qui chapeaute des laboratoires de biologie et qui retiendrait désormais, avec un faible niveau de confiance, la piste d'une fuite de laboratoire en Chine sur la foi du nouveau rapport d'une agence de renseignement révélé avant-hier par le Wall Street Journal et le New York Times. Selon Madame Ning, des experts de la Chine et de l'OMS, sur la base notamment de visites dans des laboratoires de Wuhan, ont conclu que l'option d'une fuite est hautement improbable. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué hier avoir vu les articles de presse, mais n'avoir reçu aucune information à ce sujet, en ajoutant continuer d'examiner tous les éléments scientifiques disponibles qui pourraient contribuer à faire progresser la connaissance des origines du Covid-19. Nous appelons la Chine ainsi que la communauté scientifique à entreprendre les études nécessaires pour cela, a déclaré Tariq Jasarevich, un porte-parole de l'organisation. Dans l'attente de davantage d'éléments, toutes les hypothèses restent sur la table, a-t-il ajouté.
Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne soient plus dotés de l'application de vidéo TikTok sous 30 jours. Le Canada a pris la même décision. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Ghana veut prendre des mesures pour assurer la reprise des paiements des coupons et des anciennes obligations le 13 mars. Le coupon est une rémunération versée périodiquement aux détenteurs d'obligations en application de leur contrat de prêt. Dans un communiqué hier, Accra a également déclaré que les obligations nouvellement émises ont été réglées et cotées. Le Ghana doit restructurer sa dette pour obtenir un renflouement de 3 milliards de dollars du FMI. Le Kenya construit 136 mini-réseaux solaires dans des zones éloignées mal desservies par le réseau électrique national, a annoncé lundi le ministère de l'Énergie. Les nouveaux mini-réseaux solaires font partie d'un programme de 150 millions de dollars financé par la Banque mondiale. Alimentés par des panneaux solaires, les réseaux utilisent des batteries et des générateurs de secours pour fournir de l'électricité indépendamment des principaux réseaux nationaux. Pour terminer, en raison de l'abondance de soleil, l'énergie solaire a la capacité de connecter 380 millions de personnes en Afrique subsaharienne à l'électricité d'ici 2030, a déclaré la Banque mondiale lundi. Il y a plus de 3000 mini-réseaux solaires installés dans cette partie de l'Afrique contre 500 en 2010. 9000 autres sont prévus, selon la Banque mondiale, y compris ceux qui seront construits au Kenya.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi. Coupe d'Afrique, des moins de 20 ans, quelques résultats de ce lundi.
Oui, victoire de la Gambie sur le Bénin 1-0, mais le Bénin se qualifie tout de même pour les quarts de finale grâce à sa place parmi les deux meilleurs troisièmes. Quant à la Zambie, elle a été battue par la Tunisie 2-1. Lors des quarts de finale jeudi prochain, le Sénégal affrontera le Bénin et l'Ouganda sera aux prises avec le Nigeria. Vendredi, la Gambie jouera contre le Soudan du Sud et le Congo fera face à la Tunisie.
Football toujours, le joueur du PSG, le Marocain Achraf Hakimi, visé par une enquête pour viol.
Oui, le parquet de Nanterre, près de Paris, a ouvert lundi une enquête pour viol visant le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. C'est ce qu'a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Parisien. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale après des accusations d'une femme de 24 ans qui a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à Boulogne-Billancourt, a précisé la source proche du dossier. Selon la même source proche du dossier, cette femme s'est rendue dimanche dans un commissariat de Val-de-Marne pour dénoncer des faits de viol. Elle n'a pas porté plainte. Contacté par l'AFP, le PSG n'a pas immédiatement réagi.
Football, on en parle encore. Bagassi, Lionel Scaloni, confirmé à la tête de l'Argentine jusqu'en 2026.
Oui, Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, championne du monde au Qatar, a été confirmé ce lundi à la tête de la sélection jusqu'en 2026. C'est ce qu'on apprend de la Fédération argentine. Ce lundi, à Paris, où il se trouve pour la remise des trophées FIFA Best, le président de l'AFA, Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont réunis pour finaliser la prolongation de son contrat comme entraîneur de la sélection jusqu'en 2026. Annonce l'AFA, la Fédération argentine donc, dans un communiqué. Continuité assurée, a titré la Fédération en tête de son communiqué, tandis que le compte Twitter de la sélection argentine annonçait « Confirmé, nous aurons Lionel Scaloni pour longtemps, on continue ». À la tête de l'Albi Céleste depuis 2018, Scaloni, 44 ans, a conquis la Copa América en 2021, puis la finalissime face au champion d'Europe italien en juin 2022. Il a surtout conduit l'Albi Céleste sur le toit du monde face à la France en finale du mondial le 18 décembre.
Avant de nous quitter, Bagassi, signalons que Lionel Messi, cette fois Ballon d'Or, a remporté le troisième trophée du meilleur joueur FIFA de l'année. Et c'est tout pour les sports. Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des avocats et des experts ont présenté la semaine dernière à New York les résultats des recherches et des enquêtes en cours sur les personnes présumées responsables d'une campagne de xénophobie et de nettoyage ethnique visant les Tutsis congolais, les Banyamulenge et les Hema en RDC. L'objectif étant de refocaliser l'attention de la communauté internationale sur une situation d'urgence, nous avons joint à New York Boyana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'atrocité des masses.
Donc c'est un appel à une action imminente. En effet, nous sommes ici face à une impasse où les Hema, les Banyamulenge et les Banyarwanda en Ituri, au sud et nord Kivu, font face à une situation d'urgence extrême et sont victimes d'une discussion interminable et d'un brouillage de la situation par des acteurs politiques qui profitent en fait du populisme ambiant à l'approche des élections présidentielles, mais également par des pseudo-chercheurs et experts dont le conflit en RDC est un fonds de commerce et qui, malheureusement, eux, offrent une analyse basée sur une sorte d'équilibrisme de perspective qui, au fond, retarde une résolution du problème d'urgence, notamment par rapport à la perte de vie basée sur la xénophobie contre ces communautés. Et ces pseudo-experts finissent par donner un récit faussé aux institutions internationales qui sont censés agir dans ce type de situation. Maintenant, cette situation dure depuis des années, mais depuis environ juin de l'année dernière, l'ampleur de la violence contre ces communautés a exponentiellement augmenté, comme cela a été constaté dans les déclarations faites par la haute commissaire des droits de l'homme, Michelle Bachelet, la sous-secrétaire générale, Alice Ngaitou, mais également le groupe des experts dans leur dernier rapport.
Quel est l'intérêt, justement, pour les Américains de se préoccuper de ce qui se passe en RDC?
Les États-Unis sont un des États membres du Conseil de sécurité, tout comme d'autres pays en Europe et ailleurs. La responsabilité que nous avons en tant que citoyens américains, en tant qu'États membres du Conseil de sécurité, c'est aussi de contribuer à une paix globale. C'est notre rôle. Et dans la situation actuelle, nous avons établi des stratégies pour résoudre ces problèmes d'insécurité en RDC, mais elles ne sont pas effectives, elles ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme qui se déroulent depuis 30 ans, sur les viols, le viol qu'on a déclaré comme étant une arme de guerre, sur les déplacements, sur la crise de déplacés internes et à l'international, donc la crise de réfugiés, et sur tout un tas d'autres problèmes qui émergent à partir de la situation sous prétexte que nous devons défendre nos intérêts. C'est une bombe à retardement et je pense qu'il faut, il faut agir maintenant et ne pas attendre que ce soit trop tard.
Boyana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'atrocité des masses. Au Sénégal, les religieux s'impliquent dans le débat politique pour faire baisser les tensions qui agitent le pays. En mars 2021, leur intervention décisive avait mis fin aux violentes manifestations qui avaient fait 14 morts. Aujourd'hui comme hier, la parole des guides religieux constitue un socle important dans la stabilité du pays. Cependant, certains jeunes ont lancé le slogan « So Artuul Bul Ate » pour dire que si les guides religieux n'agissent pas dès maintenant pour éviter l'affrontement, ils devront les laisser préserver la démocratie sénégalaise au prix de leur vie. Une nouvelle posture qui inquiète fortement les plus âgés qui sont témoins de l'importance des guides religieux dans la société sénégalaise. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'exécutif, le judiciaire et le législatif, voilà les trois pouvoirs consacrés par la constitution sénégalaise. Mais ce triptyque est complété par le pouvoir des guides religieux, un pan important qui a longtemps servi la démocratie, un pilier secoué dernièrement par des attaques, insultes et des invectives à cause de la politique. Pour Aurélien Colli, chauffeur de profession, l'immixtion des guides religieux dans le champ politique est la cause de ces invectives qu'il juge regrettables.
C'est l'éducation, Bill.
La principale cause est l'éducation défectueuse des jeunes. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge afin qu'ils puissent reconnaître l'autorité et lui donner le respect qu'ils méritent. Pour ma part, j'ai décidé de rester loin de la politique car les jeunes ne reconnaissent l'autorité de rien ni personne dès lors que cela ne va pas dans le sens de leur intérêt. C'est pour cela que les personnes âgées et les guides religieux sont ciblés.
Des actions suicidaires, voilà comment Cheikh Djibril Diop Lai perçoit l'animosité de certains jeunes envers les guides religieux. Pour ce membre du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, s'attaquer à l'autorité des guides religieux conduira le pays vers l'abîme.
En période de tension, il est difficile de discerner le faux du vrai. Et c'est là qu'écouter et respecter la parole des guides religieux est important. Fragiliser les chefs religieux revient à couper la branche sur laquelle on est assis. Ce qui est sûr, c'est que tu vas tomber avec la branche et l'arbre va survivre. Les guides sont comme cet arbre. Peu importe la situation, ils seront toujours les socles de ce pays. Donc, il faut les respecter et suivre leurs injonctions.
Pour servir de relais et éviter une brouille du canal d'échange entre la société et les gouvernants, la régulation s'impose. C'est dans ce cadre que le médiateur de la République, le juge Dembakandji, a initié des rencontres avec les différentes composantes de la société.
La régulation, ça fait partie des moyens d'apaiser. Je pense que, bon, quelque part, on ne peut pas tout faire. Mais déjà, ce dialogue-là va nous permettre, nous, bon, d'approfondir en direction des autres autorités. Voilà, en leur rendant compte des pulsions d'une partie importante de la société.
Considérés par beaucoup comme des gardiens de la stabilité, les religieux ont toujours joué leur partition quand le pays tangue ou est en proie à la tension, comme c'était le cas lors des manifestations meurtrières de mars 2021. Une implication qui les expose désormais à des attaques virulentes qui pourraient à la longue déstabiliser un des piliers de la nation sénégalaise. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Au Togo, pour assurer la sécurité des usagers des voies publiques et rendre plus attrayant le paysage urbain, le gouvernement a annoncé une opération de désengorgement. Ce projet de nettoyage des villes du pays est entré dans sa phase opérationnelle et concerne les commerces, notamment les boutiques, kiosques, étalages et les panneaux publicitaires installés sur les trottoirs, les emprises des rues et des principales artères. On fait le point avec Amen Assignon, notre correspondant à Lomé.
Nous sommes à Casablanca, un quartier de Lomé. Ce matin, les riverains ont reçu la visite des agents communaux. Une descente musclée, annoncée depuis des semaines, qui vise à dégager les voies pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Une opération de désengorgement décidée par le gouvernement pour rendre la ville plus propre. Ceux qui n'ont pas voulu obtempérer ont vu tout simplement leurs marchandises saisies et embarquées. Écoutons Marie-Thérèse Talémé, une revendeuse.
La ville doit être propre, nous sommes d'accord. Avant, les gens avaient érigé des hangars en désordre. Les autorités locales ont refusé cela. Après, d'autres ont installé des conteneurs pour vendre leurs marchandises. Ceux qui ont occupé le goudron, c'est normal qu'on les chasse. Mais nous, qui sommes devant les boutiques, pourquoi nous chasser?
Depuis quelques mois, une sensibilisation accrue a été menée auprès des populations pour leur expliquer le bien fondé de cette opération. Aboka Kossi Agbenigan est le maire de la commune Golf 5.
Et on a déjà dépassé
la période de sensibilisation qui a pris des mois. Depuis l'année passée, nous avions passé les messages dans toutes les communes. On ne peut pas vivre dans une capitale où les trottoirs sont encombrés et sont devenus des marchés. On a des hangars, des conteneurs qui polluent la ville.
Si la manière forte est utilisée dans cette commune pour faire entendre raison aux riverains, ici, dans la commune Golf 7, on continue de mettre l'accent sur la pédagogie. Kové Kossi, troisième adjoint au maire Golf 7.
Pour le désengorgement, la commune Golf 7 a choisi la pédagogie parce qu'on se dit que pour changer de comportement, ça ne doit pas être une manière brusque. Les gens sont installés au bord des voies et ils ne savent pas que ça constitue des dangers pour eux.
L'encombrement des voies publiques est un réel problème auquel font face les communes du Togo. Source de pollution, cela constitue un danger pour la sécurité des populations. Comme l'explique Etekpor Gabriel, président de l'association Maï Magbo Dédié.
L'emprise de la voie est pour la bonne circulation des voitures, des motos, tout comme des piétons. Et chaque rue a sa dimension. Une fois que les commerces s'installent dehors et dans les rues, cela empêche très souvent les piétons à garder leur ligne.
Cette opération de désencombrement des trottoirs, qui a commencé à Lomé, la capitale, ne fait certes pas l'unanimité pour le moment. Toutefois, les autorités disent vouloir assurer la sécurité des usagers des voies et rendre plus belle la ville. Des actions qui s'inscrivent dans la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation, mais aussi des réformes du secteur du transport routier. Amina Sinon pour VOA Afrique, Lomé.
Les États-Unis refusent d'envoyer des avions de combat F-16 en Ukraine, du moins pour le moment. Mais comme le rapporte Veronica Balderas Iglesias de la VOA, certains législateurs du Congrès prévoient de pousser la Maison-Blanche à changer sa position. Le récit de Alexandrine Olonion.
Avec des roquettes Grad de l'ère soviétique, les soldats ukrainiens ont poursuivi leurs efforts ce week-end pour récupérer le territoire conquis par l'armée russe à Kharkiv. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait l'éloge d'une nouvelle série de sanctions annoncées samedi par l'Union européenne à l'encontre de Moscou, il a également lancé un appel à davantage de soutien international.
Nous sommes capables de mettre fin à l'agression russe cette année.
La possibilité que les Ukrainiens renforcent leur système de défense avec des jets F-16 et de l'artillerie à longue portée des États-Unis n'est pas envisagée actuellement, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans l'émission This Week sur ABC.
Dans cette phase, l'élément critique est la capacité de manœuvre au sol. Et cela signifie des chars, des véhicules blindés, de transport, de troupes, des véhicules de combat, d'infanterie. La question des F-16 est pour plus tard.
Certains législateurs visent cependant à faire plus dès maintenant, a déclaré le représentant républicain Michael McCaul à ABC.
Dans nos projets de loi de crédit, nous pouvons certainement prioriser les systèmes d'armes. Nous avons l'intention de le faire. Je pense qu'avec suffisamment de pression de la part des deux parties au Congrès, nous pouvons obtenir pour l'Ukraine ce dont elle a vraiment besoin pour
mais
gagner.
Les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls et l'administration Biden aura besoin que les alliés européens augmentent leur contribution, a souligné le sénateur républicain Dan Sullivan dans l'émission Meet the Press sur NBC.
Ils se sont engagés à dépenser au minimum, et cela devrait être un plancher et non un plafond. 2% de leur PIB pour la défense, la grande majorité des alliés de l'OTAN que nous avons ne font pas cela.
Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril pour discuter des efforts de médiation de Pékin. Les États-Unis souhaitent également garder les lignes de communication ouvertes, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sur NBC. Mais aucun entretien de haut niveau n'est prévu entre le président Joe Biden et son homologue Xi Jinping.
Rien n'est prévu pour le moment, même si je prévois que les deux dirigeants se parleront à un moment donné dans un avenir pas trop lointain.
Il a souligné que les canaux de communication militaire avec la Chine sont nécessaires pour éviter l'escalade, les surprises et les erreurs.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la réalisation de cette édition. Kouaweda a assuré la mise en onde. À la présentation, Eric Mandelakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voaafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr.